L'affaire Dracula. Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre.
L'affaire Dracula Tepes. J'entends des avocats, des psychiatres dans les médias qui délirent.
Monsieur le Président, Maître Charvet nous a habitués à toutes les facéties possibles et imaginables.
Condamné pour l'éternité à se nourrir de sang humain.
Le sac de nœuds se démêle.
En vrai, on ne sait rien.
L'affaire Dracula. Une série audio Kobo originale à retrouver sur kobo.com/Dracula.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte l'histoire de John List, un Américain qui, en 1971, tue sa mère, sa femme et ses trois enfants avant de disparaître. Vous serez frappé, j'en suis sûr, par les similitudes avec l'affaire du pont de Ligonnès, en France. Et j'ai d'ailleurs demandé à un spécialiste de l'affaire, Guy Hunier, de débriefer cette histoire avec moi tout à l'heure. Histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je vous propose d'embarquer dans la machine à remonter le temps. Nous voilà à Westfield, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis, au mois de novembre 1971, face à une belle maison victorienne de Hillside Avenue, la villa de la famille List. Ah ouais, elle est belle, grande, élégante, 19 pièces, une sorte de manoir. Et c'est donc là qu'habitent les List. Je vous les présente. Le père d'abord, John, 46 ans. Vice-président d'une grosse banque du coin. La mère, Hélène, elle ne travaille pas, elle s'occupe de ses enfants. Et puis les trois enfants, donc, Patricia, l'aînée, 16 ans, John, 15 ans, et Frédéric, le petit dernier, 13 ans. Voilà, vous avez toute la famille. Ah non, non, j'ai oublié la grand-mère, Alma, la mère de John, le père, 85 ans. Elle habite là, elle aussi. La maison est tellement grande qu'elle y a ses propres appartements. Voilà. Maintenant, vous connaissez toute la Smala. Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous attacher à eux. Car dans un instant, tout ce petit monde va disparaître. Le 10 novembre 1971, le directeur de l'école où sont scolarisés les enfants reçoit une lettre du père. Je vous informe que pour des raisons familiales, l'un de nos parents qui est malade en Caroline du Nord et auquel nous devons apporter du soutien, nos enfants seront absents de l'école pendant quelques semaines. La lettre ne mentionne aucune date de retour. Et de fait, à partir de ce moment-là, les voisins racontent qu'ils ne les ont jamais plus vus. Ni le père, ni la mère, ni la grand-mère, ni aucun des trois enfants. Pendant quelques jours, il voit de la lumière allumée dans toutes les pièces de la villa, sur les trois étages. Et puis au fil des jours, les lumières s'éteignent, une par une, pièce par pièce, jusqu'à ce que la villa soit intégralement plongée dans le noir. Un voisin, justement, est intrigué par ça. Et il finit par appeler la police.
C'est très étrange. Les lumières dans les pièces se sont éteintes une par une. Ça a duré plusieurs jours. Et puis là, il n'y a plus de lumière du tout. Je pense que vous devriez venir voir.
Le 7 décembre, deux policiers se rendent sur place. Ils inspectent la villa de l'extérieur. Ils ne notent rien d'anormal. Et ils vont voir les voisins, les plus proches. Pour moi, ils sont partis en voyage, mais je ne sais pas s'ils ont emmené la grand-mère avec eux. J'ai un peu peur pour elle, quoi, parce que si elle est toute seule depuis tout ce temps... Du coup, les policiers retournent devant la villa. Et dans la pénombre du soir qui est en train de tomber, ils finissent par apercevoir une lueur entre le troisième et le deuxième étage. Ils s'approchent, et là ils s'aperçoivent qu'une fenêtre du rez-de-chaussée n'est pas bien fermée.
On pourrait essayer de rentrer par là, qu'est-ce que t'en penses?
Et hop, les voilà dans la cuisine. Où, surprise, retentit de la musique classique, à tue-tête. «
T'as vu les taches sur les carreaux, là? C'est du sang, non?
Les deux policiers continuent de progresser au rez-de-chaussée, toujours sur fond de musique classique, et ils arrivent devant la salle de bal, fermée par deux grands rideaux blancs. Ils les ouvrent, et dans le faisceau de leur lampe de poche, ils voient des formes humaines, quatre corps, allongés sur des sacs de couchage.
C'est la police de Whitefield, hein? Vous pourriez vous lever?
Pas de réponse. Et pour cause. Ce sont des cadavres, en partie décomposés.
Et regarde, ils ont pris une balle dans la tête chacun. Sauf celui-là, le plus jeune, là. Lui, on dirait qu'il a pris plusieurs balles.
L'un des policiers appelle immédiatement le central.
On est sur Hillside Avenue, 431. On vient de tomber sur ce qui pourrait être un suicide collectif ou un massacre. Vous pouvez nous envoyer du renfort ?
Les quatre cadavres sont assez faciles à identifier. Il s'agit de la mère, Hélène List, et de ses trois enfants, Patricia, John et Frédéric. Mais où sont le père et la grand-mère ? La grand-mère, Alma, les policiers arrivés en renfort finissent par la trouver au troisième étage, morte elle aussi, une balle dans la tête. Mais le père, où est le père ? Le père n'est pas mort, et il a laissé une lettre. Les policiers la trouvent dans son bureau, bien en évidence. C'est une lettre manuscrite de 5 pages, dans laquelle John Lees, qui est très croyant, s'adresse à son pasteur, le révérend luthérien Revinkel. Elle commence ainsi. « Je sais que ce qui a été fait est mal, et que toutes les raisons que je pourrais donner ne le rendront pas bon. » Et il ajoute un peu plus loin, « J'étais loin de gagner de quoi nous faire vivre. Tout ce que j'ai essayé semblait aboutir à un échec. » Voilà donc l'explication. John List était ruiné, et c'est pour ça qu'il les a tous tués. Il écrit, « Je suis sûr qu'ils sont allés au ciel maintenant. » Et la lettre se termine par un post-scriptum glaçant. Mère est dans le corridor du grenier au troisième étage. Elle était trop lourde pour la bouger. À partir de là, une chasse à l'homme est lancée dans tous les États-Unis. On cherche John List, qui est qualifié de mass murderer, un tueur de masse. Et dès le 8 décembre, lendemain de la découverte des 5 corps, l'affaire fait les gros titres de la presse. Et dans la petite ville de Westfield, on ne parle que de ça. Et les gens qui connaissent John List tombent de l'armoire. Surtout ceux qui le fréquentaient à la paroisse.
Je ne comprends pas. Enfin, c'était un homme très, très calme, très, très courtois. Je n'arrive pas à croire qu'il a fait ça.
2 jours après la découverte des corps, on retrouve la voiture de John List, une Chevy Impala, garée dans un parking de l'aéroport international Kennedy. Si on en croit la date du 9 novembre, qui figure sur le courrier, John List a 1 mois d'avance sur la police. Pour lui mettre la main dessus, il est donc fondamental de comprendre qui il est, de cerner sa personnalité. Alors voilà ce que les policiers apprennent sur lui. John Emil List est né à Bay City, dans le Michigan, en 1925, de parents germano-américains. C'est leur fils unique. Des gens assez stricts, raides, pas marrants, un père qui travaille beaucoup, et une mère un peu castratrice, tous les deux très croyants, luthériens, foi qu'ils ont transmise à leur fils. List obtient son diplôme d'études secondaires, et juste après, il est mobilisé et il va servir en Allemagne à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1946, il retrouve les bancs de l'université, et il obtient un diplôme en administration des affaires, et déménage en Virginie. Et 5 ans plus tard, en 1951, il rencontre Hélène Taylor, 25 ans, veuve. 3 mois plus tard, il se marie à l'église luthérienne de Baltimore, dans le Maryland. Et dans la foulée, ils font 3 enfants, en rafale, 3 enfants en 4 ans. Bon, les gens disent que c'était un bon père, attentif.
Pas un papa gâteau non plus, mais un bon père, présent pour ses enfants. Alors le travail maintenant. À partir de 1958, John Lees travaille comme comptable dans différents cabinets. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nulle part, dans aucun des postes qui lui sont confiés, il ne gravit les échelons. Il reste un employé moyen. Il se contente de changer de poste régulièrement. Et à chaque fois, la famille suit. Et les Lees déménagent donc souvent. Mais pourquoi change-t-il de poste si souvent, si c'est pas pour prendre du galon? Ça, c'est intéressant. Les policiers vont voir ses anciens employeurs. John Lees? Ben, s'il est parti, c'est que je l'ai renvoyé. Pour quelle raison l'avez-vous renvoyé? Des problèmes au travail? Non. Enfin, si. Je l'ai pas renvoyé pour une faute professionnelle, hein. John travaillait plutôt bien, mais il avait des vrais problèmes de comportement en équipe, hein. Il s'entendait pas avec les autres. Il pouvait plus le supporter, vous comprenez? Ça dure comme ça pendant 7 ans, jusqu'en 1965, où là, Lees connaît une vraie promotion, sa première. Il est engagé comme vice-président de la National Bank du New Jersey. Enfin, un poste à responsabilité, un vrai tournant dans sa carrière. Et dans la foulée, Lees achète cette belle maison à Westfield, celle-là même où on a retrouvé les 5 cadavres. Renseignement pris d'ailleurs, l'achat de cette maison ne s'est pas fait sans mal. John a dû emprunter beaucoup d'argent à sa mère. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle vivait là. Elle avait payé une bonne partie de la villa. Mais l'explication du drame se situe sans doute juste après. Quand en 1966, John Lees se fait virer de son super poste de vice-président de la National Bank du New Jersey. Poste auquel il ne sera resté qu'un an, finalement. Il ne dit rien. Il ne dit rien à personne. Et surtout pas à sa femme, ni à sa mère. Il ne leur dit pas qu'il n'a plus de travail. Il ne leur dit pas qu'il a échoué une fois de plus. Et tous les matins, il enfile son costume de banquier et il va prendre son train à la gare de Westfield en direction de New York, comme si de rien n'était, comme s'il avait encore du travail. Sauf qu'il descend quelques stations plus loin, et on ne sait pas comment il occupait son temps. Il a cherché du travail pendant ces 5 années, oui, et parfois même il en a trouvé, mais il n'a jamais dépassé la période d'essai. Et après, il s'est fait virer, comme d'habitude. Maintenant que les policiers sont parvenus à reconstituer le parcours de John Lees pendant ces 5 années qui précèdent la tuerie, on comprend mieux le mécanisme qui mène au meurtre. Pendant 5 ans, il a dû à la fois cacher qu'il n'avait plus d'argent et maintenir le niveau de vie de sa famille. Et au bout de 5 ans, il s'est retrouvé coincé. Coincé par son mensonge. Il avait une issue possible. Le suicide. Sauf que chez les luthériens, c'est un péché mortel. Se suicider équivaut à aller tout droit en enfer. Il aurait pu aussi choisir la lâcheté. C'est-à-dire la fuite. Abandonner sa mère, sa femme et ses enfants, les laisser se débrouiller. Mais il était trop orgueilleux, sans doute. La dernière option était celle de la pauvreté. Faire appel à l'aide sociale. Il a dû y penser chaque fois qu'il regardait son compte en banque. Mais ça n'est pas comme ça qu'il a été éduqué. Chez les Lees, la pauvreté est considérée comme un péché qui l'a encore mené tout droit en enfer. Les policiers parviennent à établir que John Lees, met un an après son dernier licenciement, à choisir la seule solution qui lui paraît tolérable. Les tuer. Tous, pour qu'ils ne vivent pas la chute. Et ce faisant, les envoyer au paradis et leur épargner l'enfer. Il l'écrit dans sa lettre. Je suis sûr qu'ils sont montés au ciel maintenant. Alors, où est-il? La dernière chose qu'il fait avant de disparaître est de retirer de l'argent. Pas une somme astronomique, hein, 2 000 dollars. et pas sur son compte en banque puisqu'il est ruiné, sur le compte qu'il avait en commun avec sa maman. Combien de temps tient-on avec 2000 dollars au début des années 70 aux États-Unis? 2 mois? 3 mois maximum en serrant les fesses? Mais pas plus. Or, les mois passent. Et bientôt les années. 1972, 1973, 1974, 75, et il ne donne aucun signe de vie. Enfin si, des tas de gens le voient partout, des milliers de lettres arrivent des quatre coins des États-Unis. Je l'ai vu à tel endroit, allez à tel endroit, je suis sûr qu'il y est. À chaque fois on vérifie, ça n'est pas lui. Et les années passent encore, 76, 77, 78, 79, 80. Régulièrement, la presse met sa photo à la une, ça n'a aucun effet. L'affaire John List est devenue ce qu'on appelle un cold case. C'est une affaire non résolue, sans doute pour l'éternité. Personne n'y croit plus. Au milieu des années 80, les policiers qui enquêtent sur sa disparition racontent que quand ils partent en vacances pour entretenir la flamme, ils envoient à leurs collègues rester au boulot des cartes postales anonymes. « Nous aimerions que vous soyez là pour coffrer John List. » Ça les fait marrer. La disparition de John List n'est plus vraiment une enquête. C'est devenu un mythe. C'est devenu une légende urbaine. Et ça dure comme ça, jusqu'à la fin des années 80, jusqu'à ce qu'une émission de télévision décide de s'intéresser au dossier John List. Une émission de la Fox, qui n'est pas encore l'empire qu'elle est devenue aujourd'hui, mais qui remporte un vrai succès. America Most Wanted, qui a d'ailleurs été adapté en France, sur TF1, sous le nom de Perdu de vue, de Jacques Pradel. Vous voyez le concept? Tenter de résoudre des énigmes, des affaires non résolues, en faisant appel aux téléspectateurs. L'émission est présentée par un certain John Walsh, qui est un animateur un peu particulier. Son propre fils a été assassiné, et son assassin court toujours. Donc, John Walsh a une motivation très intime, plus intime que journalistique. C'est la police qui donne à Walsh le dossier de John List. Au début, il n'est pas très emballé. C'est une vieille histoire qu'on ne pourra illustrer que par des photos jaunies des années 70. Il a peur que ça fasse chuter son audience. Mais bon, il se laisse convaincre.
Tonight, on America's Most Wanted.
Now tonight's first case, the oldest we've ever pursued on America's Most Wanted.
L'émission est programmée en avril 1989. Pour l'occasion, les producteurs ont fait réaliser par un sculpteur, à partir de photos d'époque, un buste en plâtre de John List, mais vieilli, avec les traits qu'il pourrait avoir 17 ans plus tard. Et le buste est montré à la caméra. Et Walsh livre quelques informations sur le bonhomme.
Alors, John List, à l'époque, avait une voix douce, que sans doute il a conservée. Il portait systématiquement une chemise-cravate et on peut imaginer qu'il ait continué à s'habiller comme ça. Et j'ajoute qu'il portait des lunettes.
Pendant l'émission, plus de 200 appels arrivent de tous les États-Unis. Et un appel retient l'attention. Un appel en provenance de Denver, dans le Colorado.
Ah, je suis sûr que c'est lui. Ah oui, oui. C'était mon voisin jusqu'à il y a peu. Tout correspond, hein. J'avais remarqué qu'il montait beaucoup. Il se fait appeler Bob maintenant. Enfin, Robert Clark. Il a quitté la région il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il est parti vivre en Virginie avec sa femme.
Le 1er juin 1987, le FBI débarque chez ce Robert Clark à Richmond. Bonjour madame. FBI, est-ce que monsieur Clark est là?
Ah non, messieurs, il est à son travail.
Madame, nous avons des raisons de penser que votre mari pourrait être John List, recherché depuis 17 ans par le FBI.
Bob? Mais non, vous vous trompez complètement. Écoutez, je vais vous donner l'adresse de l'agence de comptabilité où il travaille. Vous verrez que ça n'est pas lui du tout, que vous faites erreur.
Deux agents du FBI se rendent sur place. Robert Clark est en plein travail.
Mais non, je vous assure, je ne suis pas John List. Écoutez, venez avec nous,
Nous allons vérifier ça. Ça ne prendra pas trop de temps. Je vous en prie, monsieur Clark. Asseyez-vous. Nous allons prendre vos empreintes digitales. Tendez-moi la main droite, s'il vous plaît, merci. Voilà. Maintenant la main à gauche. Voilà. Et on compare avec les empreintes relevées à l'époque sur la scène de crime. Et c'est lui. C'est John List. On l'a retrouvé. Il nie, hein.
Enfin, je vous assure que ça n'est pas moi. Je ne sais pas de quoi vous me parlez.
Mais il ne peut pas y avoir d'erreur.
John, on sait que c'est toi.
Il sourit, mais il ne dit rien de plus. Le 29 juin, John List, qui a maintenant 63 ans, est extradé vers le New Jersey et inculpé de meurtre au premier degré. Toutes les télés du pays l'attendent sur le tarmac de l'aéroport de Newark. Et on mandate un psychiatre, le docteur Stephen Sirming, pour juger de son état mental. Et c'est à lui qu'il raconte les choses pour la première fois.
J'ai pensé que ma famille irait au ciel. Et que j'aurais peut-être la chance moi aussi d'aller au ciel après la mort.
Et c'est aussi au psychiatre Sirming que John List raconte comment ça s'est passé, 17 ans plus tôt.
Le matin, les enfants ont pris leur petit déjeuner. J'ai fait en sorte d'être le plus naturel possible, jusqu'à ce qu'ils partent à l'école. J'avais un vieux pistolet. Il avait appartenu à mon père. La première que j'ai tuée, c'est ma femme, Hélène, dans la cuisine. Et ensuite, je suis monté tuer ma mère.
Il raconte qu'ensuite il a écrit les lettres pour l'école des enfants et qu'il est allé retirer les $2000 à la banque.
En rentrant, je me souviens. J'ai déplacé le corps d'Hélène et j'ai nettoyé le sang dans la cuisine. Et puis après, je me suis fait un sandwich et j'ai lu le journal comme je le fais tous les jours. Et puis j'ai attendu le retour des enfants.
Il dit que Patty, Patricia, est rentrée la première. Il l'a tué dans la cuisine, d'une balle dans la tête. Que Frédéric est arrivé ensuite. Et lui aussi, il l'a tué dans la cuisine.
Et après, je suis allé chercher John, à son école. Je me souviens, ce jour-là, il avait un match de foot. J'ai assisté à la rencontre. J'étais heureux de le voir s'amuser. Et puis je l'ai ramené à la maison et je l'ai tué à son tour. De tous les meurtres, je dois dire que ça a été le plus difficile. Parce que quand je lui ai tiré une première balle, il a été pris d'une sorte de spasme. Il a fallu que je m'y reprenne plusieurs fois.
L'autopsie a effectivement montré que le petit John avait reçu 10 balles. Il dit qu'après, il s'est fait un bon repas, qu'il se sentait soulagé, et qu'il est allé se coucher, et qu'il a dormi parfaitement bien.
Moi, j'ai beaucoup mieux dormi cette nuit-là que les nuits précédentes, hein, c'est sûr.
Le lendemain matin, il a baissé la température dans la maison à 10 degrés pour éviter que les corps ne se décomposent. Il a allumé toutes les lumières et mis la radio sur sa station de musique classique préférée.
Je me disais que si quelqu'un approchait de la maison, il penserait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur.
Et après, il a écrit sa lettre au pasteur. Et puis il a pris un avion pour Denver dans le Colorado, à 2000 kilomètres de là.
Quand je suis arrivé à Denver, j'ai trouvé un poste de cuisinier dans un petit restaurant. Et là, j'ai décidé de me faire appeler Robert Clark. À partir de ce moment-là, comment vous dire, je me suis senti plus libre, oui. J'étais délivré du fardeau de ma famille.
Verdict du psychiatre. John List souffre d'un trouble excessif, compulsif de la personnalité. Mais ce n'est pas une maladie mentale. Et donc il pourra être jugé. Le procès de John List s'ouvre le 2 avril 1990 devant la Cour supérieure du New Jersey. Il plaide coupable, donc il n'y a pas de débat là-dessus.
Tout l'enjeu du procès est de savoir s'il a agi délibérément ou s'il a droit à des circonstances atténuantes. Toute la stratégie de son avocate, Elijah Miller, est basée là-dessus.
Le psychiatre qui a examiné M. List a établi qu'il souffrait d'un trouble obsessionnel compulsif. C'est une circonstance atténuante. Et je demande à ce que la charge soit requalifiée en meurtre au deuxième degré. Il ne pouvait pas s'éloigner de sa ligne de conduite. Il était prisonnier de sa folle logique.
Mais à la barre, le psychiatre Stephen Serming vient mettre un gros bémol à tout ça.
Je crois que vous aviez le choix, monsieur List. Je crois que vous étiez mentalement capable de faire un autre choix.
Le procès dure 2 semaines. Le jury délibère pendant 9 heures. Et à l'issue, il reconnaît John List coupable de 5 meurtres au premier degré. 3 semaines plus tard a lieu l'audience de détermination de la peine, c'est comme ça que ça se passe là-bas. C'est la première fois que John List s'exprime publiquement au sujet de son crime.
Je suis vraiment désolé de la tragédie qui s'est produite en 1971. Mais je pense qu'en raison de mon état mental de l'époque, je n'étais pas responsable de ce qui s'est passé.
Un point important. Les meurtres ont été commis en 1971, c'est-à-dire avant que le New Jersey ne rétablisse la peine de mort. Donc il ne peut pas être condamné à mort. Il est donc condamné 5 fois à la prison à perpétuité, 1 fois par meurtre. À l'annonce du verdict, la salle applaudit. John List fait 3 fois appel. Son avocat présente des expertises psychiatriques qui démontrent qu'il souffre d'un stress post-traumatique lié à son service militaire durant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Mais toutes ses requêtes sont rejetées par le juge. Des années plus tard, à l'âge de 77 ans, John List donne une interview à la télévision dans l'émission American Justice.
Je pense que j'irai au ciel. Je ne sais pas quelle sera ma situation au ciel. Ils se souviendront certainement de ce que je leur ai fait. Mais au ciel, nous nous pardonnerons l'un l'autre pour tout le mal que nous nous sommes fait.
John List est mort le 21 mars 2008 au centre médical du pénitencier de Trenton, dans le New Jersey. Et je n'ai aucune idée de l'accueil qu'il a reçu là-haut. Voilà donc pour cette histoire qui, bien sûr, du début jusqu'à sa fin, fait écho chez nous, qui fait d'ailleurs écho aussi à notre fantasme que nous avons payé si cher dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès et qui voudrait qu'il soit vivant quelque part et qu'on le retrouve un jour. Et c'est pourquoi j'ai invité Guy Hunier, qui a écrit « L'affaire Dupont de Ligonnès, la secte et l'assassin » aux éditions de l'Archipel, un livre à thèse sur l'affaire Dupont de Ligonnès. Vous aussi, évidemment, le parallèle entre les deux affaires vous vient à l'esprit. La preuve, c'est que vous avez consacré quelques pages à John List. Vous pensez d'ailleurs que Dupont de Ligonnès connaissait sans doute l'affaire List.
Il y a énormément de similitudes entre les deux affaires, c'est extrêmement troublant, mais il y a aussi des différences essentielles.
Mais vous pensez que Dupont de Ligonnès connaissait l'existence de John List?
Et j'ai même un élément que j'ai redécouvert qui n'a jamais été évoqué, qui est extrêmement troublant, qui est le suivant. Alors avant, il faut peut-être évoquer les similitudes avant de cet élément extrêmement troublant qui sera un peu la cerise sur le gâteau. Mais les similitudes, c'est tous les deux naissent dans un milieu religieux apocalyptique. Ça, c'est très important. Carrément.
C'est-à-dire on se menace au fond en permanence de l'enfer.
Oui, c'est-à-dire on est dans une secte paranoïaque. Hein, c'est-à-dire le monde est gouverné par Satan. L'apocalypse est imminente. Et il y a la menace d'un grand châtiment.
Donc ça, tous les deux sont dans cette logique-là, même si l'un est catholique,
luthérien,
les Romains, et l'autre luthérien.
Ce sont des luthériens rigoristes, et lui, John List, a été élevé dans la Bible avec vraiment serré...
au niveau moral.
Serré au niveau moral, et avec cet esprit de Luther affirmait que l'Apocalypse allait arriver et que le Satan gouvernait le monde. Et... dans l'affaire de Ligonès, ça a été le déclencheur pour moi. C'est dans ce livre, j'ai cherché à répondre finalement à deux questions. C'est qu'est-ce qui fait qu'un homme en arrive à éliminer toute sa famille,
ouais.
Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il a pu devenir. Dans cette affaire de Ligonès, j'ai trouvé des documents qui sont accablants.
Mais est-ce qu'ils sont au même stade de religiosité,
alors,
l'un et l'autre? On voit que John List est dans une totale soumission à la doctrine de l'Église luthérienne.
Oui.
Il ne fait référence qu'à ça.
Exactement. La grande différence, effectivement, et c'était essentiel, parce que ça a des conséquences très importantes, c'est que de Ligonès a baigné, il a grandi, il a été éduqué dans ce milieu sectaire, apocalyptique, paranoïaque,
oui.
Mais qu'à 35 ans, il s'en est séparé totalement. C'est-à-dire qu'il a réalisé que tout ce qu'on lui avait raconté, c'était des bobards.
Donc il ne croyait plus
en Dieu. Il écrit lui-même que c'est la pire des désillusions qu'un homme puisse connaître. Mais il a fallu qu'il arrive à 35 ans. C'est dans la secte maternelle qu'on lui a enseigné tout ça. Mmh. C'est sa mère qui dirigeait une secte, et moi je publie les écrits dans le livre.
C'est une secte pour vous, on est d'accord, église, c'est une secte.
C'est une secte, c'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour les instances officielles. Mais il suffit de lire les écrits qui sont publiés dans le livre, des extraits, pour voir à quel point on est en plein délire. On n'est plus dans la religion, et cette secte considère que l'Église catholique officielle est gouverné par Satan, le pape, c'est Satan lui-même, l'église de Monseigneur Lefebvre, qui est une église parallèle déjà, hein,
traditionnaliste,
elle-même a été envahie par Satan, donc il ne reste qu'une seule issue, c'est l'église de la secte maternelle qui s'appelle l'église de Philadelphie. Alors, de Ligonès, il grandit là-dedans, il faut voir les implications que ça peut avoir sur un cerveau, c'est très important.
Mais vous dites qu'il n'est pas religieux.
Il perd la foi.
Il a perdu la foi. Néanmoins, je retiens que dans chacun des sortes de sarcophages qui entouraient les corps de sa femme et de ses enfants, il y a un objet religieux, il y a une vierge, il y a des chapelets pour trois enfants, il y a une colombe dans mon souvenir.
Fait. C'est-à-dire qu'il a perdu la foi, mais on voit, et je publie également les documents là-dessus, tous les recherches qu'il fait, on a l'impression qu'il essaye de la retrouver, mais il n'y arrive pas. Quoi. C'est aussi un de ses grands désastres. Pour lui, c'est une faille, un gouffre qui s'ouvre. Donc, ils grandissent tous les deux, la foi et la poutre maîtresse de leur éducation. La personnalité, il y a des aspects similaires et différents. Il y a des aspects similaires dans le sens de le caractère méticuleux, organisé, obsessionnel et similaire, mais John List est plutôt introverti, de Ligonès est plutôt entre guillemets extraverti. Hein. C'est un homme qui est très ouvert, qui est chaleureux, qui est apprécié des autres. Hein. C'est pas du tout un type qui vit reclus, de Ligonès.
On a dit tout à l'heure qu'il y avait des points communs, la religiosité de ces deux hommes. Il y a beaucoup de choses quand même qui ne se ressemblent pas. La première qui saute aux yeux, c'est que Dupont de Ligonès dissimule les cadavres sous la terrasse, alors que John List les met dans la salle de bal. Alors, cela dit, il met la radio, il allume la radio, il baisse le chauffage pour que les cadavres se conservent longtemps. Est-ce qu'il n'est question, dans la fuite de Dupont de Ligonès, comme dans celle de John List, que de gagner du temps?
Alors, effectivement, c'est un point essentiel de différence, c'est que de Ligonès fait une mise en scène incroyable pour dissimuler les corps, et d'ailleurs, on ne les a trouvés qu'à la cinquième visite. Les policiers s'apprêtaient à partir, c'est-à-dire qu'il s'en est fallu de très peu qu'on ne les trouve pas.
Qu'on ne les trouve jamais.
Donc, il part avec cette idée que...
Mais l'idée, c'est de, à votre avis, hein, l'idée est de retarder la découverte des corps au maximum pour lui laisser du temps, ou de nier, le crime.
Ça, c'est très important. Il ne veut pas apparaître
comme
le meurtrier de ses enfants. Mmh. Et ça répond à une question qui revient souvent, c'est s'il s'est suicidé, pourquoi ne l'a-t-il pas fait sur place? Pour une raison très simple, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il ne veut pas apparaître comme le meurtrier de ses enfants.
Mmh.
Ça, c'est la première différence. Alors, je peux revenir en arrière sur les similitudes. Il y en a une. Bon,
oui,
ils sont tous les deux dans une situation professionnelle, financière, conjugale, désastreuse.
Aussi désastreuse chez Donnelly sur le plan conjugal. On ne sait pas quelle est la réalité.
Désastreux. Il envisage de tuer sa femme.
Comme Dupont de Ligonès, le couple ne va plus.
Depuis longtemps, elle est alcoolique, etc. Il envisage même dans les options de tuer sa femme et non pas les autres. Mais enfin, pour plein de raisons, il estime que ça ne résoudrait pas les problèmes. Ils sont tous les deux menacés de saisie, d'expulsion. De Ligonnès est très ambitieux, il a des rêves américains, il s'imagine dans des grosses bagnoles, des grandes, d'ailleurs il achetait des bagnoles aux États-Unis, des grands espaces, beaucoup d'argent, etc. Il y a ce côté-là.
Qu'il n'a pas non plus.
Qu'il n'a pas non plus, et ses affaires ne marchent pas. Mais, alors, il y a un point, également qui est extrêmement troublant, qui n'a jamais été évoqué, qui est le suivant, c'est que quand John List quitte sa maison, donc, de 18 pièces, après avoir laissé les corps, il va en voiture à l'aéroport Kennedy, d'accord? Et sa voiture, c'est une Chevy.
Oui.
D'accord? Et quel est le nom qu'utilise de Ligonnès quand il va sur la Cité catholique? Quel est le pseudo qu'il utilise?
Sur le site internet de la Cité catholique.
Sur le site internet, c'est Chevy.
Ce qui, pour vous, est la preuve que Dupont de Ligonnès...
C'est pas une preuve, c'est une coïncidence, mais c'est extrêmement troublante quand même.
Qu'il connaissait l'affaire List.
D'une part, il la connaissait vraisemblablement parce qu'il était aux États-Unis au moment où ça a éclaté, le procès.
Ouais.
Enfin, qu'on l'a arrêté. Mais ça ne suffit pas pour autant pour en faire un copier-coller. Mmh. La presse l'a beaucoup écrit que parce que John List s'était enfui, de Ligonnès avait fait pareil. Et là, il y a quand même des différences essentielles.
Alors là, quand même, la différence majeure, il faut quand même la poser tout de suite, c'est qu'il y en a un qui laisse une lettre de 5 pages pour dire c'est moi, et qu'il y en a un qui laisse rien et qui dit rien.
Oui, alors
Ligonnès n'a jamais assumé.
Oui, mais tous les deux envoient des écrans de fumée, par exemple. De Ligonnès écrit des lettres disant on est parti à l'étranger, et Jonis fait la même chose, on est parti en voyage, etc.
C'est ce qu'il dit aux instituteurs de l'école.
C'est ce qu'il dit aux instituteurs. À la famille, de Ligonnès écrit qu'il est agent secret, et que donc ils sont partis aux États-Unis.
Oui, mais de Ligonnès ne livre rien sur ses motivations intimes. Alors qu'au final, John List dit...
Alors...
Est-ce que son interprétation est la bonne? On peut en douter.
Oui, voilà.
Mais lui dit que son moteur, c'est la ruine. C'est
Il ne veut pas exposer
sa famille à la pauvreté et à la ruine.
Exactement. Mais si vous voulez, il y a beaucoup de cas, enfin, il y a un certain nombre de cas de gens qui sont dans une situation professionnelle, financière et conjugale difficile, voire désastreuse, et qui pour autant ne suppriment pas leur famille. Là, on a dans les deux cas un élément qui est très important, c'est la religion. Et évidemment, John List, lui, croit toujours en Dieu, même s'il estime qu'il l'a pas aidé, et donc il se substitue à lui pour sauver, en quelque sorte, l'âme de ses enfants. Ils vont aller au paradis. De Ligonnès a perdu la foi, il essaye de la retrouver, il n'y arrive pas, mais sa femme est croyante, deux de ses enfants sont croyants, et on peut imaginer que d'une certaine manière...
Il leur souhaite le meilleur
après. Mais il y a un autre élément qui est très, très important, que j'évoque longuement dans le livre, c'est vraisemblablement de Ligonnès souffrait de ce qu'on pourrait appeler une dépression mélancolique. Autrement dit, il est rongé de l'intérieur par quelque chose qui fait que lorsque arrive, il se trouve face à un échec aux trois niveaux qu'on a évoqués, les deux se rencontrent, la dépression mélancolique, et si vous voulez, rencontre en quelque sorte l'échec, et les psychiatres dont un qui s'appelle le Clérambeau a fait le lien entre la dépression mélancolique et l'homicide, ce qu'on appelle l'homicide altruiste. C'est-à-dire, je tue les miens, en quelque sorte, par amour ou pour leur rendre service, pour leur épargner le pire.
Mmh.
Et donc, on a un élément souterrain qui m'est apparu au fil de l'enquête, où on voit que le type, il est rongé, quoi. Il a quelque chose... C'est pas seulement je suis dans un échec professionnel, conjugal, etc. Il y a autre chose à l'intérieur qui le ronge et qui avance progressivement. C'est un fil souterrain, si vous voulez.
Et qui conduit tout droit, si on suit votre logique, au suicide.
Alors,
parce que s'il est dépressif, on voit mal un type dépressif ayant tué femme et enfant errer pendant des années en reconstruisant une autre vie.
Exactement.
Alors que John List, lui, n'a pas eu de difficulté parce qu'il n'est pas dépressif.
Alors, non seulement il n'est pas dépressif, mais surtout, il est croyant et il pense. Il croit en Dieu, donc il ne peut pas se suicider, sinon il va en enfer. Il faut voir qu'il est dans une logique très particulière. Hein.
C'est comme ça dans l'église luthérienne. Enfin, dans ce courant-là.
Exactement comme ça, voilà. Et lui, il aligne les options les unes après les autres, hein. Je les raconte dans le livre. Si je me suicide, je vais en enfer. Si je tue ma femme, il se passe ci. Si je tue mes enfants, il se passe ci. Si je tue ma mère, il se passe ça. Donc je peux pas, la meilleure solution, c'est de tuer tout le monde et puis, en espérant qu'ils vont aller au paradis.
Et moi, je me débrouille pour faire une nouvelle vie.
Tandis que...
Dupont de Ligonnès n'est pas du tout dans cette
logique. Alors, Dupont de Ligonnès, c'est pour ça que c'est très important.
Il est dépressif.
Alors, non seulement il est dépressif, vraisemblablement, mais il a surtout perdu la foi. Et donc, ayant perdu la foi, il a, en quelque sorte, le droit de se suicider. Seulement, il a, par rapport à sa famille, et ça, bon, on n'a pas le temps pour rentrer en détail, mais par rapport à sa mère et à sa sœur qui font partie de l'église de Philadelphie, il n'a pas le droit de se suicider. Par rapport à son autre sœur, il n'a pas le droit non plus. Elle rejette le suicide. Elle ne fait plus partie de l'église de Philadelphie, mais elle est croyante. Donc, il doit dissimuler également son suicide. Et là-dessus vient se rajouter un autre élément qui est très important, c'est « de toute façon, j'aurai le dernier mot ». Il faut comprendre que de Ligonnès, c'est un homme extrêmement orgueilleux, qui a été élevé comme étant un élu, qui est donc un élu de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on lui a enseigné quand il était petit, c'est que l'Apocalypse allait arriver et que lui allait siéger au gouvernement du Christ-Roi après l'Apocalypse, qu'il était un élu, c'est-à-dire qu'il allait échapper à la destruction liée à l'Apocalypse. Donc, c'est un homme, et ça, si vous voulez, les gens qui l'ont connu et que j'ai interrogé le disent, il se sentait au-dessus de la mêlée. D'ailleurs, il le dit lui-même dans ses lettres, j'ai un QI supérieur aux autres, etc., etc. Donc, il est au-dessus des lois. Mais c'est lui aussi qui doit avoir le dernier mot, et donc il organise sa fin de façon...
à dissimuler son suicide. Cette thèse-là, elle a quelle cote au Paris 9 chances sur 10 que ça soit comme ça?
Alors,
il aurait dissimulé son suicide, ce qui est une idée très intéressante.
Oui, il aurait dissimulé son suicide. C'est, si vous voulez,
Vous la mesurez à combien de probabilités?
90-95%. Je ne dis pas que la cavale est impossible, mais là encore, il y a une différence avec John List qui a pompé de l'argent sur le compte de sa mère, $2000, vous l'avez rappelé. John List, de Ligonnès, a priori n'a plus d'argent, il n'a pas de papier, et la thèse de la cavale ne colle pas avec les faits. Ça, c'est très important. Pour autant, beaucoup de gens préfèrent, parce qu'elle est romanesque, la thèse de la cavale, mais quand même, la plupart des policiers, des experts, le juge d'instruction et le procureur se penchent plutôt pour le suicide.
Guy Hunier a écrit L'affaire Dupont de Ligonnès, la secte et l'assassin. C'est un livre à thèse, je trouve ça très intéressant dans le genre des affaires criminelles. Et pour l'instant, nul ne vous a démenti.
Au contraire, puisque...
vous avez failli.
Oui, j'ai passé pas loin.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.